Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Press Start, votre rendez-vous sur les jeux vidéo. Philippe au micro et aussi à la technique, et c'est pas plus doué. Et nous sommes en direct sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Au programme de l'émission, on aura l'update, qui sont les dernières infos sur le monde vidéoludique, les aventuriers de la Playhistoire, qui est la présentation d'un jeu, le DLC, qui peut être un quiz, une histoire, un test ou une présentation. Là, ce sera une présentation sur Twitch. La sélection musicale et le one-up qui est le débat. Votre équipe d'experts n'est pas au complet car Farid, Julien et on attend l'arrivée probable de Charles dans quelques minutes ne sont pas avec nous, mais Julien nous a préparé un sujet et Charles arrive. Mais on a le grand plaisir de retrouver Tony.
Bonjour à tous et toutes.
On a aussi un petit nouveau qui n'était pas là la semaine dernière. On découvre Arthur, qui découvre la radio.
Bonsoir
aussi.
Oui, c'est ça, c'est la première fois pour moi.
Donc toi, tu fais principalement sur Twitch, justement.
C'est ça, voilà. Moi, je suis auto-entrepreneur sur Twitch, donc j'ai l'habitude de parler dans un micro devant plein de gens, mais plus avec la caméra et dans mon petit bureau à moi, donc c'est un peu différent, là.
Eh ben, on se met bien, et puis on va attendre Charles, qui normalement devrait arriver. Ah, et peut-être, on est en train de me signaler qu'il serait éventuellement à la porte. Alors, on se met bien et on presse start sur Radio Campus Tour 99.5 FM et on va démarrer avec l'update. Alors, messieurs, je sais même pas, je crois que les jingles ils passent pas, je sais pas du tout comment ça se passe à l'antenne, c'est la catastrophe. On va toujours continuer, hein, les soucis du live. On va commencer l'update. Alors, messieurs, quelle est l'actualité qui vous a le plus marqué cette semaine ?
Vas-y, je te laisse commencer.
Très bien, je commence du coup. Voilà, je me représente, donc c'est Arthur, mais on m'appelle Sati d'habitude, ça fait bizarre d'entendre mon prénom, c'est très rare pour moi, il n'y a que ma mère qui m'appelle comme ça. Donc moi, je voulais vous parler du jeu vidéo, du marché du jeu vidéo, plus particulièrement en Chine, depuis particulièrement cette année, qui du coup est un marché qui est en plein essor. On n'a pas beaucoup entendu parler de jeux vidéo chinois depuis que le jeu vidéo est populaire chez nous. Et là, depuis 4 ans, en fait, c'est un marché qui se remet complètement en question. Et on a des très très grosses sorties chinoises qui arrivent, qui inondent le marché chez nous. Par exemple, Genshin Impact, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent, je ne sais pas trop.
Genshin Impact, ouais, j'en ai entendu parler.
Oui, c'est un ça jeu fait qui... pas mal de bruit.
Oui, parce que c'est un jeu en fait qui est disponible sur mobile et sur PC. Et qui est une révolution en matière technique, parce que je ne sais pas si vous y avez déjà joué, si vous avez déjà vu.
J'ai vu quelques images, mais je n'ai jamais joué, non.
Et bah, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un format un peu donc, qui s'appelle le gacha, donc c'est un format qui est très... voilà, c'est du free-to-play, tu peux y jouer comme tu veux, mais il y a beaucoup de transactions dans le jeu, voilà, ça c'est pas... On aime ou on n'aime pas, mais en termes techniques, c'est vraiment comme si tu jouais à Breath of the Wild en free-to-play, c'est assez inimaginable vu que ça tourne sur téléphone. Moi, quand on m'a dit « tu vas tester ce jeu », j'arrivais pas à croire que ça puisse tourner sur téléphone, mais c'est le futur. Et ça, c'est des Chinois qui l'ont fait.
Ouais.
Et du coup, ça met le niveau en fait, de base des jeux à un autre niveau. Donc les éditeurs occidentaux vont devoir s'adapter à ça et sortir des trucs tout au moins aussi bien, sinon ça marchera plus. Donc ça, c'était le premier exemple. On a aussi un jeu qui s'appelle Black Myth Wukong qui va sortir en 2023 normalement, qui est du coup inspiré un petit peu par tout ce qui est les Dark Souls. Je ne sais pas si c'est un peu trop vaste comme explication.
Dark Souls, c'est juste pour dire le style de jeu. Quoi,
c'est un jeu d'aventure un peu RPG.
D'accord.
Avec beaucoup
c'est pour
de difficultés.
Pour les gens qui connaissent pas forcément.
Ouais, c'est ça, je savais bien.
C'est pour les adeptes du BDSM en général.
c'est ça, exactement.
Il y a côté très cuir, moins de moustache, mais très cuir quand même.
C'est ça. Très violent. Des gros combats de boss, très longs et très difficiles, en général très exigeants. On a eu Sekiro aussi, notamment là-dedans. Donc c'est un jeu comme ça, c'est la première fois que la Chine nous sort ça. C'est un studio indépendant en plus en Chine, donc, et c'est inimaginable, parce que si vous allez voir des images sur YouTube ou n'importe où, de ce jeu, Black Myth Wukong. C'est une révolution, que ce soit en matière de technique et aussi en termes de gameplay, qui a l'air d'être particulièrement agréable et innovant dans plein de choses. C'est-à-dire que vous pouvez vous transformer en plein de boss que vous tuez, au moins 90 transformations.
Ah oui.
Voilà, alors que ça sort de nulle part et que même en termes techniques visuels, pour tous les fans de 4K et de gros matériel, là, ils vont être servis, quoi.
Ouais.
Et donc ça, c'était juste pour dire ça, voilà. Le marché chinois, dans les années à venir, à surveiller pour tous les fans de jeux vidéo, parce qu'ils vont nous amener de très belles choses. Ça fait deux minutes là, j'ai pas compté.
De toute façon, j'ai.
C'est beaucoup plus.
Vu comment j'ai patouillé au départ, c'est pas très très grave. On accueille Charles qui vient enfin d'arriver.
Ouais.
Salut Charles.
Salut, salut. Ah oui, aujourd'hui c'était la réouverture des cinémas et donc je travaillais. C'est pas que j'avais pas bossé. Et moi j'ai pas grand chose en actu, juste. Je m'intéresse beaucoup à la VR. Et effectivement, là, on parle beaucoup de temps en temps. Là, on a des petites infos qui arrivent sur le nouveau casque VR de la PlayStation 5. On ne sait pas encore quand il sortira ni rien, mais on a pour l'instant vu les quelques spécifications, les manettes. On a pu voir aussi en photo le casque, toujours pas, il me semble. Non, ou alors pas. J'ai loupé. Et donc voilà, ça fait. Pas mal de bruit, il y a beaucoup de gens, je pense, qui attendent ça. Surtout que parfois, là, je sais que Tony est fan de Resident Evil et beaucoup de gens ont parlé de l'absence de VR sur le dernier Resident Evil. Et
oui.
Moi, je me dis que peut-être qu'ils attendent ce nouveau casque VR pour justement sortir cette version. On verra.
Ouais, je suis pas sûr.
Je suis pas sûr, mais.
Ou au pire, ils feront une version.
De luxe.
Ils aiment beaucoup, tu nous avais expliqué.
Ouais, mais je sais pas, j'ai tendance à penser que dans le cas présent, ils ont dû se dire, il y a trop peu de personnes qui l'ont fait en VR, alors que l'expérience est incroyable. Mm. Donc du coup, pourquoi on mettrait des ressources pour ça?
Faut dire que les trois quarts des vidéos qu'on trouve sur YouTube de gens en VR qui jouent à Resident Evil, c'est des gens qui, en fait, ils sont en train de se taper une crise de nerfs. Hein. Donc peut-être que c'est pas forcément une bonne pub, ou je sais pas.
Disons que le début du début, il te met en ambiance, quoi. Avec la VR, ça marche très très bien.
Mais donc, il y a aussi HTC, la marque HTC, qui avait sorti le casque VR, le Vive, donc il y a quelques années, en partenariat avec Valve. Et Valve qui a sorti de son côté son propre casque VR, qui dépote pas mal quand même, qui est actuellement un des meilleurs casques sur le marché.
Moi, j'ai un Vive Pro, clairement, c'est trop bien.
Ouais, voilà.
Et quand je vois l'index, je fais bon, ok.
Ouais, ouais. Et donc là, HTC a annoncé le Vive Pro 2 qui sortira au mois de juin, 4 juin. Ils ont annoncé aussi le Vive Focus 3. mais je pense surtout le Vive Pro 2 qui sera à destination peut-être du grand public, mais avec un prix quand même de 1 400 €.
Alors, donc grand public, mais de Neuilly,
qui est pété de thunes. Quoi, ouais.
Grand public, mais effectivement, mais c'est un arrondissement de Paris. Quoi. C'est
une beaucoup plus grande définition dans l'image, donc beaucoup, une définition de 5K et des choses comme ça. Enfin voilà, un casque qui, je pense, va dépoter pas mal aussi. Hein,
Après, il n'y a toujours pas le sans fil. Hein. C'est aberrant. Je trouve un casque aussi cher, il n'y a pas le sans fil. Ouais. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils foutent?
C'est vrai, c'est vrai.
Donc bon.
Donc à voir. Mais donc voilà, il y a de l'annonce pour ceux qui s'intéressent à la réalité virtuelle. Il y a du matos qui sort prochainement. Et puis, vous êtes pété de thunes.
Parce que c'est quand même un sacré budget. Là.
C'est ça, ouais. Voilà, il y a toujours les quests après qui sont abordables.
Abordable, c'est-à-dire
350 €.
Ah oui, ça
ouais,
va.
Ouais, il tourne à 300. Ouais, 300 balles. On peut y trouver à 300 balles lorsqu'il y a des réducs.
Voilà, ouais, c'est ça. Voilà, ouais. C'est ce qu'il y a de moins cher actuellement pour ceux qui s'intéressent à la réalité virtuelle.
Ça marche très bien.
Ouais. C'est du bon entrée de gamme.
C'est honnête. Et puis bon, c'est autonome. Hein, donc, c'est autonome, pour le coup, il n'y a pas besoin de PC puissant.
Ouais.
Ah, d'accord. Bon, génial. On va garder un œil là-dessus.
Ouais.
Puis pour le VR de la PS5.
Ouais, voir
ce que ça va donner, quoi.
Ouais.
On va passer à Tony. Est-ce
alors,
qu'il y a quelque chose qui t'a marqué cette semaine?
Eh ben moi, j'ai fait un retour dans le temps. Est-ce que vous savez, on va parler d'un jeu qui date de 2013, qui visiblement ne veut pas crever. Ce jeu, c'est GTA V.
Ah oui.
Parce que GTA V va réussir un exploit que très peu de jeux. Alors, j'ai cherché parce qu'en fait, je crois qu'il y en a un autre, mais j'ai pas retrouvé. Il doit y avoir un autre jeu qui a réussi à faire sa transition pour un jeu sorti sur deux générations précédentes et qui réussit à sortir sur la nouvelle génération de console. GTA V, je l'ai eu sur PS3, puis il est sorti sur PS4, et là, il sort sur PS5.
Et est-ce que tu l'as pris sur PC aussi?
GTA V, c'est l'histoire de beaucoup de haine vis-à-vis de Rockstar avec moi parce qu'ils m'ont eu une fois sur la version PS3, parce que je l'ai acheté sur PS3. Un an plus tard, sur PC, j'ai dit plus jamais on m'aura parce que je l'ai racheté sur PC. Du coup, Red Dead, je me suis pas fait avoir. Le 2, j'ai attendu qu'il sorte sur PC un an après. Je me suis battu pour éviter les spoils aussi, ça c'était le plus dur, mais voilà. Donc bon, et en fait, ce qui m'impressionne, c'est qu'on est à une ère, enfin, à travers cette anecdote, en fait, je me rends compte qu'on a une ère du changement du paradigme du jeu vidéo qui passe d'un jeu vidéo, d'un produit en fait avec un début et une fin, un usage, un temps d'usage, à un produit virtuellement infini où on est sur un jeu service. Parce que pour moi, GTA V, maintenant, c'est un pur jeu service. On a quitté complètement l'optique de jeu comme faisait Rockstar à l'époque. Et je dis ça parce que, par exemple, clairement, les mecs n'ont pas l'intention de sortir GTA 6 tout de suite. Hein. Ah, il y a beaucoup trop de pognon encore avec GTA 5 pour qu'on sorte GTA 6. Sauf que, en fait, moi, le multi de GTA 5, je peux plus le piffrer. Je le déteste. De fond en comble, je le déteste. Et du coup, ça me déprime de me rendre compte que le marché du jeu vidéo s'oriente progressivement vers un système jeu-service.
De recyclage un peu, tu veux dire ?
Non, pas tant que ça. C'est juste que, en fait, ce que je crains dedans, c'est que tout le monde se rende compte que le jeu service, c'est l'avenir dans le sens financier. Parce qu'économiquement, enfin, GTA 5, je sais pas, on est en milliards de dollars de retombées financières pour Rockstar. Enfin, c'est au-delà de tout ce qu'on imagine. Et du coup, moi, ma crainte, c'est qu'en fait, tous les éditeurs commencent à se lancer là-dedans et que ça appauvrisse culturellement tous les joueurs. La sensation que j'ai un peu, c'est quand je regarde, il n'y a aucune malveillance dans mes propos, hein. Je ne vais pas passer pour un vieux boomer et vieux con qui dit que c'était mieux avant.
Hein. Trop tard.
C'était un peu mieux avant quand même. ce que je veux dire par là, ce qui m'ennuie, c'est qu'en fait, quand on regarde les jeux les plus joués par les plus jeunes et que je m'amuse à comparer avec ce que je jouais moi plus jeune, en fait j'ai la sensation qu'il y a un appauvrissement du nombre de jeux qui sont tentés. Concrètement, c'est Fortnite, c'est Minecraft, c'est GTA V, c'est Apex, c'est Call of Duty Warzone. J'ai l'impression qu'en fait.
Et tu cites que des free-to-play d'ailleurs.
Et oui, mais en même temps, c'est logique, puisque nous, à notre époque, on avait le même problème que les gamins d'aujourd'hui, c'est qu'on n'avait pas de pognon et on avait un, deux jeux par an, allez, trois, si on avait un peu de chance. Et du coup, en fait, on n'avait pas ce segment de jeux gratuits qu'on pouvait jouer comme ça. Aujourd'hui, il y a une pléthore d'offres et résultats. Il y a eu cette modification du marché du jeu vidéo qui personnellement m'angoisse un peu parce que j'ai peur que ça finisse par altérer les expériences qu'on a pu avoir il y a 10 ans. Alors peut-être que je me trompe et que c'est une crainte de passéiste, hein, mais...
Moi, j'avais pas envie d'aborder ce sujet parce que j'avais peur d'encore plus passer pour un boomer que toi, parce que je pense que c'est déjà le cas à l'heure actuelle, en fait. Pour moi, culturellement, le jeu vidéo, on est déjà sur une casualisation totale pour faire plus d'argent, pour toucher beaucoup plus de monde. Et c'est pour ça qu'on s'oriente vers ces changements de modèle économique. Mais je veux pas trop
dériver.
Mais en tout cas, sur GTA V, ouais, c'est incroyable. Mais il faut aussi préciser que le côté RP de GTA V, qui est fait par les joueurs, c'est-à-dire que c'est des développeurs qui ont modifié les concepts du jeu pour que tu puisses avoir un métier dans le jeu, machin.
Très cool. C'est devenu un peu comme les Sims, quoi. C'est-à-dire, tu gardes la base de GTA, mais sauf que c'est un peu vite à vivre.
Ouais,
quoi,
c'est ça.
Dans GTA, quoi.
Ouais, sauf que tu incarnes ton personnage et c'est devenu même limite plutôt un RPG, voire un MMORPG carrément.
Mais dans le cas de GTA, ce que je reproche, c'est pas ces mécaniques parce que moi j'aime pas, j'ai fini par atteindre l'overdose, mais en soi, je reproche rien. Je trouve que c'est un peu trop lourd, mais sinon, c'est top. Enfin, vraiment, l'univers est d'une cohérence incroyable. Mais le souci, c'est que, en fait, GTA V, sa durée de vie commerciale fait que GTA 6, peut-être un jour, quand finalement on ne touchera plus que 250 millions par trimestre.
C'est ça.
Quand Star Citizen sera en bêta, quoi.
Non. J'ai une petite dédicace pour un pote à moi, là, dans cette phrase.
Merci, Tony. Alors, moi, l'actualité est un peu plus terre à terre, on va dire. EA Sport a communiqué sur le jeu Formula One 2021, qui sera toujours produit par Codemasters. Hein, parce qu'ils ont racheté, ça a été racheté par EA Sport, mais c'est toujours Codemasters qui gère, ils l'ont dit répété la main sur le cœur. On connaît EA Sport et des fois leurs annonces, ce que ça veut dire. C'est peut-être cette année, l'année prochaine, on verra. Mais ils ont dévoilé les pilotes iconiques que vous pourrez recruter dans le mode My Team. Alors, le mode My Team est apparu dans la version 2020 du jeu, toujours fait par Codemasters. Et qui vous permet de créer votre propre écurie de Formule 1. C'est un mode où il faut veiller à développer sa voiture, gérer les différentes parties de l'usine et évidemment gérer les contrats de son coéquipier. Alors, outre les pilotes actuels de Formule 1 de cette saison, donc vous aurez le plaisir de pouvoir faire rouler Nikita Mazepin, par exemple, ou ce que vous voulez, et ceux de la Formule 2, donc ça c'est les petits jeunes qui poussent un petit peu à la porte, vous aurez également droit à Michael Schumacher, cette fois champion du monde, Ayrton Senna, 3 fois champion du monde, Alain Prost, Cocorico, 4 fois champion du monde, Jenson Button et Nico Rosberg, 1 fois champion du monde, et David Coulthard et Felipe Massa, qui n'ont jamais été champion du monde, mais vice-champion du monde, ils ne devaient pas coûter trop cher apparemment, parce que Il y avait d'autres champions du monde à battre. Hein. En 70 ans,
c'est eux qui ont payé pour être dedans.
J'ai envie qu'on se rappelle de moi. David Coulthard qui est là au loin. J'existe.
J'ai failli gagner, les gars.
J'ai failli gagner. J'étais dans Formula One 97.
Sur Mega Drive.
Alors, EA a également annoncé les pilotes qui seront en couverture du jeu. Alors, sans surprise, il s'agira de Lewis Hamilton.
Oh, ça quelle alors. Surprise.
Et Max Verstappen, oh ben ça alors, oh ben. Quelle surprise aussi. Et Charles Leclerc pour surtout les pays francophones.
Oui.
Parce que bon, apparemment, dans les pays francophones, on est assez bête pour pas savoir qui est Lewis Hamilton et Max Verstappen.
Voilà. Même moi qui n'y connais rien, je les connais.
Ils sont assez connus.
Mais depuis Formula 2018, du coup.
Alors, dans la version 2021, il y aura le retour du Story Mode, qui était apparu en 2019, qu'ils ont enlevé dans la version 2020 pour mettre justement le My Team, et qui s'appellera Breaking Point, et qui mènera votre pilote de la F2 jusqu'en Formule 1, où il y aura des rivaux. Voilà, c'est un petit peu un Story Mode. C'est un peu... Tout est fait pour que ça fasse... on voit où ils veulent en venir, mais bon, c'était assez sympa. Le jeu sortira le 16 juillet prochain et sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et évidemment sur PC. Et il est très attendu par les fans du genre parce que premièrement, c'est un jeu Formula One et surtout, c'est le premier jeu de l'ère eSport et on s'attend un peu à tout et à n'importe quoi surtout parce que les jeux de début 2000 pour ceux qui ont connu cette époque-là, où il fallait faire 100 fois le Grand Prix de Monaco pour pouvoir débloquer le circuit. Merci. Donc voilà. Ben, merci monsieur. On va faire une première petite pause musicale. On va écouter Malouka, qui avait enregistré en live, en streaming, je crois, une reprise de la musique d'intro du jeu Skyrim. Voici The Dragonborn. The Dragonborn Comes.
Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient Lord Art. Believe, the dragonborn. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, the dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know, the dragonborn's come. Ah,
on est de retour sur Radio Campus Tour dans l'émission Press Start. Alors on prend son chapeau, son fouet et on part à l'aventure de la Playhistoire.
Les aventuriers de la Playhistoire.
J'aime beaucoup ce jingle, beaucoup trop. C'est peut-être ça. Et l'aventurier du jour, c'est Tony.
Alors, on va enfoncer une porte tout de suite. Le rétro gaming, c'est cool. C'est cool, mais ça a un petit souci. J'ai une question. Comment est-ce qu'on joue aujourd'hui sur nos consoles qui affichaient du 256 par 240 sur une télé 4K 65 pouces ? Eh ben moi, j'ai déjà essayé en version normale. C'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ça ? Il va falloir faire un tout petit retour en arrière pour qu'on explique les bases, pour que je puisse vous donner des solutions sur comment jouer à nos vieilles consoles à l'ère de 2021. Tout d'abord, en gros, il faut imaginer qu'avant... Jusqu'à la Xbox 360, tous nos consoles en France, qui sont sorties en France, fonctionnaient sur le Péritel. Le Péritel, basiquement, c'est le signal composite. Donc, un petit peu de technique, ça va être très court, mais c'est important. Le signal composite, c'est un signal analogique, donc c'est les vieux signaux, puisque maintenant on est en full numérique. Le signal analogique, c'est ce système 3 câbles, vous savez, le rouge, le blanc et le jaune. Le rouge et le blanc, c'est la sono, le jaune, c'est la vidéo. Bon, alors, c'était bien parce que pour le coup, c'était harmonisé en France, donc c'était tranquille. Le problème, c'est que le signal, il n'est pas HD, donc l'image, elle est pas dégueulasse, en fait. Je cherchais un mot plus gentil, mais j'en ai pas d'autre. Et au-delà de ça, rappelons, des ports composites, il y en a de moins en moins sur nos télés modernes, parce que c'est bien beau d'avoir ça, mais déjà, une Péritel sur une télé 4K d'aujourd'hui, bah, accrochez-vous, mais alors même un signal composite avec les trois points, il va falloir se lever tôt. Donc si on veut jouer, par exemple, je sais pas moi, à sa PS2 sur une télé HD sans saigner les yeux, comment est-ce qu'on fait ? Eh ben en fait, les solutions on a, mais comme d'habitude, la règle c'est plus c'est cher, mieux ce sera de qualité. Alors, on va commencer par la solution la moins chère qui était dite pendant l'intro musicale avant. Utiliser un convertisseur, donc convertisseur signal analogique numérique. En gros, c'est un bloc Péritel avec au bout une sortie HDMI. En gros, le convertisseur, il fait ça vite, mais il fait pas ça bien. Et du coup, l'image, elle est certes présente, mais les couleurs sont délavées, l'image est tremblotante... Et en plus, au-delà de ça, ça rajoute un petit truc qui s'appelle l'input lag. Alors, qu'est-ce que l'input lag ? En gros, vous imaginez appuyer sur votre manette et le moment où la console va afficher l'action que vous avez fait en appuyant sur le bouton, eh ben, ce temps va être augmenté avec ce genre de signal. Ce qui fait que, oui, vous le voyez en HDMI parce que c'est plus simple pour vos câbles et tout, par contre, l'image est sale et en plus, ben, en gros, vous avez un retard de manette. Ça va pour certains jeux, aller faire un jeu un peu rapide, genre un petit jeu de combat avec ça, la console va vite repartir dans le grenier, hein, je vous le dis. Donc, ça, c'est la solution la moins chère et fonctionnelle parce que ça coûte entre 10 et 15 balles le bloc. Donc, ok, pourquoi pas, si on veut, histoire de ressortir la console, pourquoi pas. Maintenant, on va monter un peu plus. On a un truc qui s'appelle le câble composante, ou YUV, ou YPRPB. Alors ça, c'est pour rajouter une douze. En gros, c'est un câble analogique, comme le composite, mais avec 5 morceaux. Et lui, qui est capable de faire une montée jusqu'au 720p, donc la HD. Honnêtement, c'est littéralement le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir, parce qu'il se trouve qu'il y a encore des télés qui ont ce système de connexion. Alors pas toutes, mais il y a un système qui l'ont. Et l'intérêt, c'est que par exemple, la PS2, ce câble existe pour la PS2, ça coûte environ 15€. Et vous avez une image qui monte quasiment jusqu'au 480p sur une PS2, parce que la PS2 peut pas monter aussi fort. Il n'y a que Gran Turismo 4 qui est capable de faire de la 720p, de la vraie 720p sortie naturelle. Mais voilà, ça marche plutôt pas mal, ça coûte 15-20 balles, mais d'une part, toutes les consoles n'ont pas accès à ça. Quand elles l'ont, parfois ça coûte pas cher comme la PS2, parfois ça coûte une fortune comme la GameCube, avec son câble officiel à 145€. Oui, c'est vrai, allez sur eBay, allez vous faire un tour, vous allez voir, c'est marrant. Et malheureusement, toutes les consoles l'ont pas. Mais techniquement, si votre console peut le faire, faites-le, c'est le meilleur rapport qualité-prix de toutes les solutions que j'ai abordées. Allez, on monte un peu, l'upscaler. Alors, deux cas de figure pour l'upscaler. On a soit par câble, soit par boîtier. On va commencer par le câble. En gros, c'est un câble branché à votre console avec l'entrée vidéo, qui va passer dans un câble, simplement. Arrivé à mi-chemin, il y a une sorte de circuit qui va veiller à faire le nettoyage de signal analogique pour le transformer en numérique de façon plus propre, et au bout, un HDMI. Ça, dans l'absolu, on se dit bah c'est le système le plus simple et en tout cas le plus ergonomique possible, puisqu'on n'a pas à s'emmerder avec des câbles partout. Alors oui, mais, parce que le monde, il est bien fait. En fait, le problème, c'est que moins votre câble coûte cher, plus il a des chances d'être un peu pourri. Il y a deux marques sur le marché, globalement, qui s'occupent de ça, c'est Hyperkin et Pound. Il faut savoir que Pound, c'est un peu moins bien qu'Hyperkin. Ça coûte quand même 40 balles à minima. En plus, c'est de l'import, donc il faut rajouter un peu de frais. Donc, voilà. Mais ça marche. En tout cas, ça marche mieux qu'avec un bon vieux convertisseur. Le top du top, c'est une boîte britannique qui l'a fait, ça s'appelle les RAD2X. Et eux, en fait, il faut prendre pour votre console. Et le signal est très, très propre. Il n'est pas parfait, mais il est très, très propre. 65€ maintenant.
C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment acheter. Compliqué pour rejouer à ces vieilles consoles, du coup.
Ah bah attends, c'est pas fini. Attends, parce que là, tu crois que c'est compliqué. Attends, je vais te rajouter une couche. Il faut savoir aussi, d'ailleurs, par hasard, la GameCube, c'est un cas particulier parce qu'elle a des adaptateurs qui sont propres, puisqu'à l'arrière d'une GameCube, sur les premières gènes, il y avait une sortie analogique et numérique. Et en fait, tout le monde utilisait l'analogique, mais en fait, la numérique, elle est prête. Et les petits adaptateurs qui existent, j'en ai acheté un il n'y a pas si longtemps, ça coûte 40 balles, et ça permet de streamer sa GameCube en plus.
Ah bon ?
En plus de la brancher en HDMI et tout. Hein. Donc, pour peu que vous ayez modifié votre GameCube de façon à pouvoir l'utiliser comme un pirate, et ben en fait, vous allez pouvoir pousser tous vos jeux pour qu'ils soient en 480p, et du coup, ils vont être vraiment propres sur la télé. Hein. Okay. Bon, on a parlé des câbles, on va parler des boîtiers.
Attends, juste un truc, sinon, il y a la solution la plus simple. Hein. Jamais mis sa télé.
C'est exactement ce que je voulais dire.
Tu ressors le cathodique, mais bon, ton cathodique, il fait 10 tonnes.
Voilà, c'est ça. Est-ce que t'as un ascenseur aussi pour remonter
Oui, voilà, si, éventuellement. Mais bon, partons du principe que vous voulez vous simplifier la tâche. Donc, on va passer au boîtier. Alors là, les boîtiers, en gros, on passe sur une technologie qui est supérieure. En gros, le principe, c'est vous avez le boîtier qui est branché à la télé, qui est branché également à une source électrique parce qu'il a besoin d'être alimenté spécialement. Et vous avez juste à brancher les câbles de votre console sur ce boîtier. Le boîtier va faire tout le boulot et va le retransférer à la télé. Ça a quand même un avantage, c'est que techniquement, là, vous n'avez pas à vous embêter à avoir un câble spécial vidéo pour entrer sur votre console, parce que je rappelle qu'entre Sega, PlayStation et Nintendo... la Saturn par exemple, ou la Mega Drive, c'était pas les mêmes connectiques vidéo d'entrée. Donc du coup, en fait, ça veut dire qu'il faudrait acheter à chaque fois son câble particulier. Là, vous embêtez pas, vous prenez le câble d'origine, vous le branchez sur le boîtier fait tout le reste du boulot. Problème réglé. Mais, parce qu'il y a un mais...
Ça avait l'air d'être bien, dommage.
Ben oui, c'est bien, mais c'est bien. Déjà, ça veut dire que si vous avez 4-5 consoles dans le même système, ça veut dire soit vous vous embêtez chaque fois à débrancher, rebrancher, très vite c'est relou. Soit vous achetez un boîtier pour chaque. Ouais, c'est cool. Donc ça veut dire que vous avez 4 consoles, 4 boîtiers, 4 prises d'alimentation qui sont prises juste pour chacun de ces boîtiers. Ensuite, à cela, on rajoute le fait que il faut configurer le boîtier. Parce qu'en fait, votre câble, c'est plug and play. Hein. Vous branchez, vous lancez, merci, au revoir, il fait tout. Bah, le boîtier, en fait, il va falloir un minimum configurer. Il dit, bah, en fait, je veux tel traitement de l'image ici. Là, je veux telle façon de faire ici. Et en fait, du coup, ça va demander du temps. On n'est pas sur quelque chose de clé en main, branche...
Ouais, c'est l'usine à gaz, ces trucs-là.
C'est un peu l'usine à gaz. Par contre, le résultat, lui, vaut le travail. En gros, il y en a 3 qui vont, on va dire, pour toutes les bourses. Le moins cher, il coûte aux alentours de 40-50 balles. C'est le Bitfunks Retroscaler. Pour 100 balles, on va monter un peu plus haut. On va arriver à l'OSSC, qui est une méthode open source de nettoyage et de traitement de signal. Et enfin, la Rolls-Royce absolue, si vous mettez sur Internet et vous parlez à des fans de rétro gaming qui jouent sur des télés d'aujourd'hui, ils vont avoir les étoiles dans les yeux, ça s'appelle le Framemeister XRGB Mini. Alors, contrairement à ce que...
Ouais, super compliqué.
Il faut savoir que contrairement à ce qu'on a dit, que c'est pas du tout allemand, c'est japonais. Et ça coûte 300 balles. Ouais, merci, au revoir. Ouais. Mais par contre, c'est littéralement... Enfin, vraiment, c'est incroyable le travail que fait cette machine. Ça demande du temps de préparation, mais quand vous le faites, c'est incroyable. Et donc jusqu'ici vous vous dites bon bah c'est cool, en gros si je veux jouer proprement il me faut un boîtier à 300 balles. Non, il y a une dernière solution qui est un peu coûteuse mais qui est techniquement la solution ultime, on peut pas faire mieux, c'est la modification de console. Alors virtuellement donc c'est la solution la plus efficace puisque le signal de la console, le signal vidéo va être nativement en numérique, donc il va être nativement adapté à nos écrans, donc ça c'est le top du top. Mais ça coûte un peu de pognon, quand même. Il faut savoir que toutes les consoles ne l'ont pas actuellement. Je me suis amusé à répertorier le nombre de consoles qui ont ce système-là. Actuellement, on peut modifier une NES, une Dreamcast, une 64, une PS1 et une Wii. Il y a des projets pour une PS2 actuellement, mais ce n'est pas encore terminé. L'ingénieur qui s'en occupe, c'est un mec qui a fait pas mal de ses circuits pour différentes consoles, notamment la Dreamcast et la PS1. Il ne l'a pas terminé pour la PS2. Alors, il y a quand même plusieurs défauts. La première, il y a peu de pièces fabriquées. C'est des petites boîtes, c'est des fans, c'est des ingénieurs qui fabriquent ça, mais ils ne fabriquent pas du tout à l'échelle industrielle, puisque naturellement, les retombées économiques ne sont pas à cette visée-là. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup de pièces, parce que les mecs ne peuvent pas se permettre d'avoir des invendus. S'il n'y a pas beaucoup de pièces, ça veut dire en plus que ça coûte une fortune. J'ai juste listé pour donner l'idée, et j'ai mis en euros, parce que ça se coûte en dollars. Pour modifier votre Wii, c'est 115 balles pour la pièce. Pour la Dreamcast et la NES, c'est 130 balles. La PS1, c'est 140, et la 64, 170 euros. Pour la pièce, attention, vous n'avez que la pièce, là. Hein. Ensuite, ça demande d'être bricoleur. À titre d'information, j'ai déjà retapé une PS3 qui avait un ELOD. Donc le ELOD, c'est un problème de processeur lié aux soudures du processeur. Eh ben, je trouve ça plus facile que de taper ce truc-là. En termes de bricolage, ça demande vraiment d'être pas mauvais du tout. parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on peut se planter et qu'on peut niquer la console. Hein. Donc, faut s'assurer. Puis la pièce, hein, parce que la pièce coûte plus cher que la console la majorité du temps. Hein. Donc si vous n'êtes pas bricoleur, il va falloir rajouter un surcoût parce qu'il va falloir envoyer la console à un pro pour qu'il la fasse. Donc frais de port et surcoût parce que bah, y a l'action du technicien. En contrepartie, c'est la meilleure image. Il n'y a pas d'input lag, les couleurs sont parfaites. En fait, en gros, à titre d'information, c'est comme si vous jouez à un jeu de combat qui est tiré de l'arcade et il est arcade perfect. Mmh. Voilà, pour les fans de jeux de combat, c'est exactement ça. Alors, bah oui, c'est vrai, on va me dire. Alors, soit on va être chiant à me dire, oh bah tu peux sortir la télé cathodique de mamie, tu sais, le truc qui fait 4 tonnes et demie. Je sais, il tombe sur le pied, il pète le pied, le sol, les fondations de la baraque. Non. Non, on va surtout me dire, éventuellement, t'as toujours l'émulation. Alors, oui, c'est vrai, l'émulation, ça coûte moins cher. Vous sortez un Raspberry Pi, vous mettez Recalbox dedans, et puis bah, c'est parti. L'émulateur, en plus, il vous fait ça proprement, c'est bien lisse, c'est bien nickel et tout. Je suis d'accord. Et tant mieux que l'émulation existe. Le souci, c'est que ça n'a rien à voir avec le fait de jouer avec nos consoles dans l'ambiance de l'époque.
C'est
et
sûr.
Du coup, le but, c'est pas d'essayer de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, parce que l'émulation, c'est la méthode la moins chère possible, en fait, pour pouvoir y jouer. Au contraire, il faut favoriser l'émulation parce que ça permet à n'importe qui de jouer à des pépites qui coûtent 300 balles, genre, je sais pas, Rule of Rose sur PS2, 150 balles, 200 balles maintenant, la version. Ouais, l'émulation, c'est bien. Donc voilà, mais il faut quand même pas oublier que ça reste quand même la meilleure façon d'expérimenter les vieux jeux que de les faire avec la console d'origine, la manette d'origine, dans les conditions plus ou moins de l'époque. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait il existe des solutions hein, pour jouer sur nos télé 55 pouces, 4K et autres acronymes complètement fous qui sont du bullshit marketing pour jouer à nos vieilles consoles. Si je devais donner des conseils pour ceux qui voudraient commencer, je vous conseille de commencer par une ou deux consoles grand maximum et par la GameCube parce que c'est la plus simple de toutes à préparer. Il y a un petit bloc, il fait le boulot parfaitement et voilà, ça coûte rien vraiment le bloc, ça coûte 40 balles, mais le bloc il fait très très bien le boulot. Et si vous voulez un peu creuser, je me suis amusé, donc là je vais vous sourcer mes sources personnelles. En gros, il y en a 4, c'est des chaînes YouTube. Il y a beaucoup d'US, hein, parce que vous doutez bien que ça, c'est surtout au niveau US que c'est fabriqué ce genre de pièces. Mais en gros, vous avez une chaîne qui s'appelle Retro RGB, qui parle très très bien. Lui, il s'amuse avec My Life in Gaming, qui est la deuxième chaîne. Il s'amuse en fait à faire une console, parfois les différentes générations de consoles, et ils mettent les câbles, différents câbles vidéo, et puis ils s'amusent à comparer les images pour dire, alors en fait ça dans ce cas présent c'est lui le meilleur. Bref, c'est un travail de fourmi, hein. Les mecs sont complètement tarés, et je pense que soit c'est des chômeurs extrêmes, soit c'est des mecs qui ont trouvé le filon absolu pour pouvoir faire ça, parce que clairement enfin c'est un travail de fou. Donc ouais, il y a ces deux chaînes là, Retro RGB et My Life in Gaming. Sinon au niveau français, il y a Le Jeu C'est Sérieux qui est une chaîne québécoise, donc c'est un collectionneur de jeux québécois qui est très très drôle. Au delà de son accent, il est très très drôle et il a une passion absolue, enfin il communique sa passion quand on entend parler, et lui il fait aussi ce genre de truc, donc c'est très cool. Et enfin moi je vous invite à suivre un autre qui s'appelle Dragon City 17, qui est un français, et pour la petite histoire c'est lui qui a modifié ma Dreamcast et ma GameCube ainsi que ma Saturn pour des prix très très corrects. Il a une boutique et tout, et il vend des consoles d'ailleurs qui sont toutes prêtes. Et lui il a aussi une chaîne YouTube où il montre comment est-ce qu'on fait ces modifications, où est-ce qu'on récupère les pièces et tout. Bref, c'est un mec en or, et vraiment si un jour vous voulez vous lancer là-dedans, c'est une bonne porte d'entrée. Donc il y a des solutions, vous inquiétez pas. Il faut juste mettre un peu l'argent dedans, mais ça peut se faire.
Ah, merci Tony. On va faire une petite pause. On va écouter Christopher Tin et le Soweto Gospel Choir. Alors, qui a fait une des plus belles intros dans l'histoire du jeu vidéo, hein, celui du jeu Civilization 4, avec Baba Yeshu.
Je peux dédicacer.
Tu peux.
Je te dédicace cette musique à Smosama, si tu nous écoutes, je le sais.
Baba Yetu, qui est une chanson en swahili, qui est une des nombreuses langues de l'Afrique du Sud, et qui peut se traduire par Notre Père, parce que, bah oui, c'est du gospel, donc ce sera forcément religieux. Mais cette chanson est historique, car c'est la première chanson de jeu vidéo à avoir remporté un Grammy Award, donc c'est quand même pas rien. Donc on va écouter Baba Yetu. Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye mjina la kweli tukuzwe
baba yetu yetu liye binguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye mjina la kweli tukuzwe
tupe leo chakula chetu tuna
Vous êtes de retour dans l'émission Prestart sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Alors maintenant, on va échauffer nos arguments car c'est l'heure du one-up.
Tu veux qu'on se tire l'oreille ?
Des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues.
Hey, t'es pas sorti de ton igloo depuis perpète !
Les meuporgues étant le nom barbare.
La ferme, crétin !
Qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels.
Mm-hmm.
Ça s'appelle comme ça, je suis désolé.
Mais ça s'écrit comment ?
Ça s'écrit MMMPORPG.
Voilà.
Meilleur jingle, hein, j'ai vraiment trop ce jingle.
On va le mettre pour les Jingle Awards.
Ah ouais, franchement, ouais.
Et c'est présenté donc par Charles.
Merci. Alors, moi, je vous proposais une petite discussion. Parce que l'autre jour, je discutais avec un pote qui a un enfant de 4 ans maintenant. Et puis, c'est un pote avec qui je joue beaucoup en ligne. Puis ouais, j'ai discuté, bah tiens, comment tu fais découvrir à ton fils le jeu vidéo, parce que effectivement le gamin, depuis qu'il est né, il voit son père qui joue souvent à la Switch ou à d'autres trucs. Le gamin, il a pas trop le droit d'y jouer encore, tu vois. Donc effectivement là, l'enfant a 4 ans et il commence un peu à toucher à la Switch et son père lui a acheté la Pat Patrol en jeu, hein, parce que c'est son dessin animé préféré, c'est bon. Et ben, je me suis demandé, voilà, vous en pensez quoi, vous ? Effectivement, il y a des recommandations, hein, par rapport aux écrans, l'éducation des enfants sur les écrans, choses comme ça. Par exemple, on recommande de ne pas mettre les enfants devant des écrans avant au moins 4 ans, parce que voilà, bon, il y a une question déjà pour les yeux, ça peut être assez fatigant. Et puis, même à partir de 4 ans, de limiter quand même l'usage des jeux vidéo et des écrans. Alors, quand on dit écran, c'est vraiment tout type d'écran possible, hein, tablette, jeux vidéo, télévision, etc. Parce que effectivement, l'enfant est à ce moment-là dans une phase de développement. Il a besoin d'apprendre, de découvrir le monde qui l'entoure, donc le monde réel en 3D, et d'apprendre à découvrir tout ce qui est les histoires de volume, d'apprendre à utiliser ses mains et ses doigts. C'est important pour son développement. Donc effectivement, le jeu vidéo, les écrans, les dessins animés, n'importe quoi, on reste fixe devant quelque chose on ne fait pas grand-chose pendant ce temps-là. Alors, si, il peut se passer des choses, effectivement, on développe des réflexes, par exemple, dans les jeux vidéo, il y a tout un tas de choses qui sont très bien, mais voilà, il ne faut pas commencer trop tôt, effectivement, pour aider quand même l'enfant à se développer d'une autre manière, surtout qu'un enfant qui reste trop longtemps devant la télé va s'avachir, aussi les questions de position, de squelette, etc. Donc voilà, il faut faire très attention. Et donc moi, j'ai essayé de repenser un peu à l'époque où moi, j'ai découvert le jeu vidéo. Et est-ce que vous souvenez de vos premiers jeux vidéo? Quand vous avez découvert les jeux vidéo? À quel âge? Par quel jeu vidéo?
Moi, je crois que j'avais eu la Game Boy en premier. Je devais avoir 3 ans à peu près, hein, je crois.
T'es j'ai 33
ans. Je pense que je suis un des plus vieux, en fait. Hein. Ça se voit pas, hein, mais...
Vous avez quel âge? Non, j'ai 40.
Hein. Bon, d'accord, ça va, je me sens plus jeune.
36, donc.
Depuis une semaine.
Bientôt 36.
Bon, bah, je me sens mieux, du coup.
C'est Tony le plus jeune. Hein.
Mais du coup, ouais, la Game Boy, je crois que j'ai eu en premier. Je sais pas... Je savais même pas lire, hein, je crois, quand je jouais au Schtroumpf là-dessus, ou je sais plus quel jeu super dur, complètement... C'était d'une cruauté, les jeux, à cette époque, c'était dur. Oui. Moi, je pense que quand j'aurai un enfant, je lui ferai faire des jeux insanément difficiles comme ça, et je lui dirai, voilà, papa, il a fini ce jeu quand il était petit, alors c'est simple, t'auras pas de dessert tant que tu finiras pas Shinobi 2 en hard, sans continu, sur Mega Drive. Voilà. Et puis c'est tout. Non, c'est... tu veux aller à l'école? Non, tu n'as pas fini Shinobi 2. C'est... Non, non.
C'est à ce moment-là qu'on appelle les services sociaux, hein, je le dis.
C'est souvent là.
Mais ouais, c'est vrai que je devais passer bien trop de temps les yeux collés sur la télé cathodique. Et d'ailleurs, je perds un peu la vue maintenant. C'est vrai.
En plus, c'est vrai que les écrans de l'époque, les télé cathodiques,
oui.
c'était fatigant.
C'était corrosif.
Beaucoup plus que les télés d'aujourd'hui. Hein.
Je pense, oui.
Même les aujourd'hui, écrans de PC. On parle des histoires de lumière bleue qui sont assez néfastes. Hein, ouais. Et ça, c'est
à cette époque-là, on
c'est vrai.
Vous mettez de la main devant, vous mettez devant la télé collée.
Bah oui, c'est complètement.
Ouais, c'est comme ce que disait ça. Tony. C'est Tony, c'est ça?
C'est ça.
Que, quand Tony parlait de c'est plus c'est cher, mieux c'est, malheureusement, dans le numérique, bah, comme pour les écrans de PC, je sais que moi, mes écrans, ils viennent du bon coin, tu vois. Je vois bien que mes yeux, ils baissent plus vite que mon pote qui a acheté un truc neuf avec une bien meilleure résolution et du 144 Hz, tout ça. Donc c'est vrai que ouais, ce qu'on avait comme télé dans les années 90, ça devait être un petit peu méchant, je pense.
Ouais, ouais.
Grindig, 81 cm, 250 kg.
Ouais, c'est ça. Le truc pour le déménager, il fallait enlever carrément tout le salon, ça coûtait moins cher. Ouais, moi, les tout premiers jeux vidéo, c'était... Alors... Ah bon, alors là, c'est vraiment, on va dire, chez les papys fait de la résistance.
Ça va faire mal, attention.
Amiga.
Une Amstrad, les vieilles Amstrad, et c'était un écran vert parce que le magasin qui nous l'avait vendu n'avait pas d'écran couleur, donc on avait un écran vert, tout était vert, donc, et c'était, ouais, c'était les tout premiers jeux, j'avais quoi, je devais avoir 4 ans, quoi, à peu près. Après, vraiment, quand on parle de console réelle, c'était à l'âge de 8 ans. Quoi. Mon père avait gagné un jeu vidéo sur un concours dans la presse et tout. C'était un jeu de Formule 1. Et ben, il l'avait envoyé comme ça. Mon père s'intéresse absolument pas aux jeux vidéo. Et il avait gagné. Et il m'a dit, bah tiens, cadeau. Mais sauf que j'avais pas la console. Mes parents, après, ils m'ont acheté pour... enfin, j'ai eu pour Noël. Papa Noël m'avait amené une Mega Drive et puis je pouvais y jouer. Quoi. Donc
cool.
C'était ouais, 8 ans quoi, pour la première console. Et ouais, 4 ans pour l'Amstrad, quoi, sur un écran vert dégueulasse, avec des sons qui étaient d'un autre monde.
C'était du PowerPoint quand tu jouais à un jeu de voiture, je m'en souviens.
C'est ça, et en fait, parce que je connais des gens qui ont eu également une Amstrad, ils avaient l'écran couleur, ils me disaient, ah ouais, les disquettes, c'était super bien. Non, moi c'était des cassettes audio, hein, donc c'était vraiment le truc old school à l'extrême.
Fallait taper une ligne de code pour lancer le jeu.
C'est ça, oui, fallait que tu tapes 3 pages de code, tu le tapes toi-même pour juste avoir un blip, quoi. Tu fais, waouh, c'était super bien l'informatique. Donc, ouais.
Eh ben moi, je me pose la question, que c'est mon vieux qui jouait, qui joue encore d'ailleurs, qui jouait quand j'étais môme. Je sais pas, je crois que le premier souvenir que j'ai, c'est les tuniques bleues. North and South sur Alors, si je dis pas de conneries, je crois que c'est sur Atari ST. Alors, voilà, on est...
Vraiment, c'est
pas très résistant. Bah ouais, il y a un petit côté...
Là, c'est du vrai rétro.
Mais, je sais qu'il est ressorti, d'ailleurs, il y a pas longtemps, et mon père était tout joyeux de savoir qu'un jeu aussi vieux d'une BD qu'il adore puisse encore ressortir aujourd'hui. Donc voilà. Il a un peu déchanté quand il a vu ce que c'était la fin. Mais bon, les souvenirs, tout ça. Non, les premiers vrais souvenirs... Enfin, ça, c'est un vrai souvenir, mais la première fois que vraiment je découvre ce que c'est le jeu vidéo, c'est une époque, effectivement, on n'avait rien à foutre. Il n'y a pas de règles sur l'âge, les trucs comme ça. Enfin, il y avait quelque chose, mais c'était pas marqué vraiment. Et il se trouve que mon père achète une PlayStation 1 avec deux jeux, somme toute, tout à fait convenables pour un enfant, qui s'appellent Tomb Raider et Resident Evil. Somme toute, parfaitement adapté pour les gamins. Et je me revois en fait voir mon père jouer et. Il me faudra 6-7 ans supplémentaires hein, pour passer le traumatisme en Resident Evil et le faire à mon tour. Mais voilà, et c'est vraiment, je crois, les premiers souvenirs. Et en fait, à l'époque, il y avait une notation sur les âges derrière les boîtes. En fait, c'était un système, un petit carré avec, en gros, ça cochait une tranche d'âge. Oui. À partir de voilà. Et il faut savoir en fait que cette classification en fait elle était à l'arrière, plutôt cachée, donc en fait tu la voyais pas quoi.
C'est
en fait,
vrai.
Clairement, le PEGI est arrivé tardivement puisque PEGI c'est arrivé dans les années début 2000. Au milieu de la PS2, c'est arrivé à peu près. Et du coup, en fait, avant, on n'avait pas de classification assez claire à l'avant. Et du coup, on n'avait rien à faire. Enfin,
Puis, pour reprendre ce qu'on a souvent entendu, par exemple, le joueur du grenier, il le disait souvent, les parents, c'est eux qui nous achetaient les jeux. Et ils se basaient sur ce qu'était la couverture. Quoi. Ils n'allaient pas regarder derrière. Internet, à l'époque, c'était... un autre truc. Soit ça n'existait pas du
moi,
tout.
Moi, ça n'existait pas.
Non, moi non plus au début. Il fallait que je téléphone à des numéros surtaxés pour avoir des astuces sur mes jeux.
C'est vrai.
Regarder quand les lignes de code dans des espèces de bouquins.
Oui, où t'achetais les bouquins.
Il y avait des magazines, ouais.
C'est clair.
Et ben tu vois, c'est exactement pour cette raison que ma mère à Noël m'a offert Harry Potter et la Chambre des Secrets plutôt que The Thing sur PS2. Et j'ai fini par acheter moi-même The Thing et j'ai regretté d'avoir eu Harry Potter parce que The Thing c'était vachement bien quand même. Le film était génial et le jeu était très très bien. Et du coup voilà, c'est exactement pour ça parce que Harry Potter c'était bizarrement ça vendait mieux que The Thing avec une tête d'alien un peu dangereuse sur la jaquette.
Ce film était terrible.
Il y a eu à l'époque, on avait dit c'était le jeu vidéo le plus violent du monde, Duke Nukem.
Oh, tu parles, c'était pas très violent.
Tu regardais la couverture de Duke Nukem, en fait c'était juste Terminator, c'était Schwarzenegger en train de s'énerver. Quoi. Ouais.
Mais l'ambiance était étrange dans ce jeu. C'est vrai que moi j'avais grandi beaucoup avec Doom vers mes 6 ans, les premiers Doom chez mon pote qui avait des PC alors que personne n'en avait chez lui. On avait Doom 1, 2. Ouais. On essayait de finir avec le flingue de base. On était des speedrunners avant l'âge.
Du coup, en plus, c'est quand même super sexiste, hein, donc je le conseille pas du tout aux enfants.
Oui, c'est vrai. Parce que avec les boîtes de nuit, là.
Ah ouais, c'était vraiment l'époque, on avait Duke Nukem, on avait Wolfenstein.
mais bizarrement, Wolfenstein, tu vois, tu es des nazis, moi ça me choque.
Oui, voilà, il y avait un côté moral.
C'était moins choquant, ça, c'est sûr.
Bon, tout ça, qui ne sont pas des jeux destinés aux enfants.
Oui,
c'est ça.
Oui.
Mais à l'époque, c'était... Comme dit Tony, quoi. C'était des petites cases qui étaient cochées derrière. Ouais, ouais. Personne ne regardait parce que c'était
vrai,
tout petit.
Mais il y avait déjà, de toute façon, à cette époque-là, une grosse confusion sur les trucs qui étaient faits pour les enfants ou pas. Ouais. Rien qu'avec le Club Dorothée, comme vous avez parlé l'autre fois. Parce que tu vois, moi, par exemple, quand j'étais petit, grande souffrance, ma mère voulait pas que je regarde Dragon Ball. T'imagines en maternelle comment on se foutait de moi. Je connaissais pas parce que j'avais pas le droit de regarder.
Si tu veux aller sur ce terrain-là, alors quand j'étais plus petit, pour rentrer un peu dans ma life, mais qui est pas super intéressante, mais bon, mes parents avec ma sœur, on avait une tendance à regarder, on avait regardé Terminator, on avait quoi 4 et 8 ans, Terminator, les dents de la mer et tout. Et ma mère, elle refusait qu'on regarde, c'était E.T. Parce que E.T. il avait l'air méchant.
Et est-ce qu'il y a par exemple, un enfant d'aujourd'hui, qui n'est pas loin de 10 ans, peut-être 8 ans, etc. Quel jeu d'aujourd'hui on pourrait conseiller à des parents pour faire découvrir le jeu vidéo à un enfant?
Minecraft. Le hérisson.
Minecraft.
C'est bien. C'est vrai qu'il y a le côté créatif, justement, c'est un bon...
Voilà.
Parce qu'il va tout de suite aller sur Fortnite quand même. Et ça, c'est terrible. Je me demande comment je réagirais en tant que parent, si je lui interdirais ou pas. Tu peux pas lui interdire.
Mais c'est surtout qu'en fait, tu vois, si je dois choisir entre Minecraft et Fortnite, le truc, c'est que Fortnite, en fait, c'est un jeu en ligne. Et qui dit en ligne, dit interaction avec les autres. Et genre... Je sais, je joue à Rocket League, je sais ce que c'est.
C'est tout de suite compétitif.
En fait, je me dis, je préfère imaginer le jeu comme comme moi je l'ai vécu finalement, enfin l'ascension que j'ai eue, c'est comme ça, où en fait c'était quelque chose, c'était des aventures purement solo, alors Minecraft c'est pas que solo, mais ça marche quand même, et où en fait c'était vraiment de l'imaginaire, parce qu'il faut quand même imaginer que les graphismes de l'époque, fallait quand même être un peu imaginatif, la 3D, l'époque première 3D, bon, fallait, voilà. Et je pense que Minecraft, c'est peut-être le plus adapté, voilà, puis c'est détendu, la musique, elle est calme, voilà.
C'est très créatif, effectivement, quand, par exemple, plus pour les enfants qui auraient joué au Lego avant, ils peuvent retrouver l'univers des Lego, de la Lego, fabrication avec des briques, des cubes.
Star Wars, machin, ça, je pense que c'est adapté, évidemment, à la base, quand même pour les enfants, mais même si pour les adultes, c'est super drôle. mais ouais, je trouve que les jeux Lego... Ça leur permet d'arriver dans un univers qui en plus reste dans leur monde, quoi. C'est-à-dire que si le gamin il joue avec des Lego, là c'est des Lego, mais en jeu vidéo, bah, ça peut être sympa.
Ça fonctionne aussi, c'est vrai. Ouais.
De toute façon, le jeu en lui-même Lego, je trouve que ça c'est obligatoire pour les enfants. Ça leur permet d'avoir leur propre univers, de développer leurs rêves, leurs trucs.
C'est beaucoup d'humour.
Il y a beaucoup d'humour dedans et c'est ce qu'il faut, quoi. Faut les faire rêver, quoi.
Après, tu vois, ça dépend. Est-ce que tu prends le gamin quand il est gentil et quel jeu il joue quand il est méchant? Parce que moi, quand il est méchant, c'est Resident Evil 7, hein, histoire de le calmer un coup. On fait une fois, tu fais, allez, tu vas faire l'intro, tu vas voir. Après, le gamin, il suit droit, hein.
En VR.
En plus, il sneak les yeux et bon, bah, c'est moi qui vais le voir nettoyer après, mais bon. Non, c'est pas une bonne idée, en fait, la merde.
C'était pas forcément.
Non, mais c'est vrai, je valide complètement Minecraft. J'y réfléchissais, c'est vrai, il m'était pas venu alors que j'ai passé quand même un paquet d'heures sur Minecraft.
Mais
c'est vrai que non, Minecraft c'est plus accessible à tout le monde. Les parents peuvent s'amuser à Minecraft.
Et pour autant, c'est pas pour tant basique que ça en termes de features. Donc ça va aussi développer sa logique en plus de sa créativité. Donc c'est vrai que je pense que c'est très très bien de faire jouer son enfant à ça.
Ah bah amuse-toi avec les pistons, tu vas voir.
La redstone.
Les parents, voilà, le gamin, la gamine, il a des passions, elle a des passions, donc il y a des jeux maintenant, on trouve facilement, je pense quand même assez facilement pour tout type de passion.
Tout à fait.
Donc, et puis ça permet peut-être aussi d'entrer dans l'univers, parce que ça peut être un truc totalement étranger, parce qu'on ne s'intéresse pas, ben là on peut peut-être arriver à, ah d'accord, c'est essayer d'avoir une interaction, d'entrer un peu dans leur univers et je pense que il y a aussi ça, quoi. C'est que les parents, certains parents, peut-être, ils comprennent pas, donc ils vont pas chercher plus loin et finalement, c'est par exemple le comme toi par exemple Tony, ton père il adorait les jeux vidéo.
Oui, ça marchait moi avec moi.
Et ça a été un début de truc qui a fait que ça a provoqué quelque chose.
Ouais, mais tu vois, par exemple, je partais des trucs, mon père aimait pas les RPG, donc j'ai failli passer à côté de Final Fantasy à l'époque. Hein.
Terrible.
Par contre, mon père aime pas Pokémon, et tu vois, je me disais, en fait, je crois que je ferais Pokémon aussi, ça marcherait super bien pour les gamins, pour deux raisons. Déjà, parce que c'est des aventures gnangnang, c'est parfait pour les mômes. Et la deuxième, c'est parce qu'une fois que le gamin, il a bien compris comment ça marche Pokémon, tu peux lui mettre les dérouillés de sa vie après quand tu joues avec lui. Et moi, juste ce plaisir-là, genre, ça va.
Pokémon c'est bien parce qu'il y a le côté RPG et un tout petit peu simpliste de l'optimisation, donc ça fait quand même réfléchir aussi. Moi je pense que le jeu vidéo tout petit, même ma mère détestait ça, elle voulait pas, c'est mon père qui me laissait jouer parce qu'il adorait Tetris lui, mais il était pas trop au jeu vidéo
aussi,
et il pensait en fait que ça pouvait me pousser à développer ma logique, et c'est exactement ce qui s'est passé. À l'école j'avais toujours, quand je le décidais, plutôt des bonnes notes, mais je préférais jouer finalement, donc je sais pas si c'était vraiment bien ou pas. Mais je pense que c'est bon pour le développement cognitif, en tout cas les jeux vidéo. Et je pense que même au niveau en psychologie et psychiatrie pédiatrique, maintenant, ils commencent à s'en rendre compte après certaines études. Pardon, excusez-moi.
Et il y a plein de sites, hein, d'ailleurs, qui donnent des informations, des conseils aux parents par rapport aux jeux vidéo. Hein, naîtreetgrandir.com, .fr, je ne sais plus. Voilà, on trouve très facilement plein de conseils pour les parents qui se poseraient des questions, parce que forcément... Les jeux vidéo, ça attire les gamins quand même.
Ça attire les gamins, et puis c'est souvent c'est les jeux les plus connus, c'est-à-dire que...
Call of.
Des gamins, Call of, des trucs comme ça. Et les parents, s'ils ne s'intéressent pas forcément, au moins ça leur permet d'avoir un support, de se dire « Ah, c'est peut-être pas pour toi le fait de faire la guerre à l'âge de 8 ans, hein ? Ouais. Tu veux pas plutôt jouer avec un truc sympa, je sais pas ?»
Au-delà de ça, en fait, ce qu'il faudrait confirmer, ce qu'il faudrait demander, basiquement, c'est en fait que les parents s'intéressent à ce que font leurs gamins et participent à ça. Et moi, ce que je reproche aux gens, c'est qu'en fait, la majorité du temps, il y a un jugement qui est fait parce qu'ils comprennent pas ça. Mais surtout qu'ils prennent pas le temps d'essayer de comprendre ça. Et de ce fait, le préjugé est installé, et à partir de là, accroche-toi pour l'enlever. Hein. Famille de France, dans les années 2000, 90-2000, qui...
Les jeux vidéo, sans, c'est pour les
vraiment, démons. Genre, ils ont censuré des trucs. Hein. Enfin, Sanitarium, à l'époque, qui était incroyable, ils l'ont complètement censuré parce que ben, dans leur imaginaire, c'était un jeu dangereux. Ouais. Ça n'avait rien à foutre, en fait. C'était juste parce qu'ils menaient leur petite croisade et tout le monde y a cru parce que ben, les parents étaient naïfs, parce qu'ils ne savaient pas, ils ne se renseignaient pas, et puis oui, voilà.
Puis on est toujours dans le même truc, c'est-à-dire que ben, le jeu vidéo est un petit peu le truc numéro un, c'est-à-dire qu'on met un grand chapeau. Quel est le problème des jeunes? Jeux vidéo. Ouais, ah, ça alors.
Comme ce que tu disais la dernière émission sur le sport, là, non?
Ouais. Ouais. C'est souvent ça, quoi. Tu te dis, c'est... ah bah tiens.
C'est un tueur en série. Il jouait beaucoup à Call of Duty. Mmh. Il y a sans doute un lien, j'imagine.
Il avait GTA 5 aussi, hein, depuis 4 ans sur 3 supports différents.
Il est côté du Marilyn Manson.
C'était une victime économique.
Voilà. Ben, merci, messieurs. Donc, on ne fera pas le DLC, mais Julien aura le plaisir de nous le présenter la semaine prochaine.
On n'a pas cité Adibou, c'est dommage. Quand
on n'a pas cité Adibou.
C'est trop bien. J'y rejoue encore. Hein. Je suis désolé, ouais, mais j'y rejoue encore.
Et on passera pas donc la troisième chanson, ce qui n'est pas plus mal non plus, parce que on s'en gardera de côté. Hein, pour oui, voilà.
Bon, ben, on peut peut-être faire une heure de débat vite fait. Non,
on peut faire une heure de débat. Je pense qu'il y aurait de quoi faire. Ben, merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Et désolé encore pour ce lancement qui a été totalement catastrophique. Voilà, c'est le coup de sifflet final de l'émission parce que j'ai repris le script de Truc des Sports et j'avais oublié de modifier cette phrase.
Nous sommes des professionnels.
Nous sommes des professionnels. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Vous pourrez bientôt retrouver cette émission en podcast sur le site internet de Radio Campus Tours. On aura le plaisir de vous retrouver le mercredi 26 mai à 19h. Avec un vrai professionnel à la table de mixage et qui aura préparé un super beau texte en direct pour encore plus de jeux vidéo. D'ici là, portez-vous bien, restez à l'écoute dans quelques minutes la suite des programmes. Salut à toutes et à tous.
Salut.
Salut. Au revoir.